Communication à caractère promotionnel.
La Française des Jeux entre en bourse. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans une entreprise performante, en croissance et utile à tous, avec environ 3,5 milliards reversés chaque année à la collectivité.
Entrez dans l'histoire. Entrez dans le capital de FDJ.
Devenez actionnaire jusqu'au 19 novembre.
L'attention du public est attirée sur les facteurs de risque, dont le risque de perte en capital, figurant dans le prospectus approuvé par l'AMF. Disponible sur le site internet de la société et de l'AMF. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Accompagner des personnes qui souffrent d'obésité, c'est la solution avec FedMind.com, une entreprise orléanaise, Elisabeth.
Oui, vous savez que l'obésité, c'est une maladie reconnue comme chronique par l'Organisation Mondiale de la Santé depuis 1997. Hein, c'est pas juste un petit embonpoint, c'est une maladie et elle touche aujourd'hui près d'1,5 milliard de personnes dans le monde, dont 15% de Français. FedMind peut venir en aide à celles et ceux qui en souffrent. C'est une solution digitale qui accompagne et qui prévient l'obésité. Oui, il s'agit de manger différemment, mais c'est surtout et avant tout un accompagnement dans la confiance et dans l'estime de soi. Bonjour Maïwenn Janové.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de FedMind et tout est parti de votre histoire personnelle pour monter votre start-up.
Tout à fait. En fait, moi je suis une ancienne obèse, j'ai pesé près de 130 kilos. Donc forcément, le projet est né de là et du manque en fait que j'avais identifié sur les aspects...
Quel manque ?
Sur les aspects psychosociaux de l'obésité, parce que moi j'ai rencontré un tas de professionnels de santé, ils m'ont tous répété la même chose, mais madame Janové, c'est simple, mangez moins et faites du sport.
Mais on a eu des réactions voilà. Comme ça sur Twitter, ben, déjà, c'est d'accord, bah, il faut faire du sport, mais
voilà,
c'est pas ça.
Merci, j'étais pas au courant, évidemment, ce sont de très bons conseils, mais ça suffit évidemment pas. Derrière l'obésité, qui est une maladie, il y a toute une dimension psychosociale, affective. Il y a aussi tout ce qui est stéréotype de minceur, pression sociétale, enfin j'en passe, mais c'est une maladie multifactorielle et c'est important de pouvoir venir appuyer sur toutes ces petites choses pour pouvoir avoir un vrai suivi.
Et votre plateforme justement, FedMind, appuie sur ces choses, elle appuie sur ces critères. 8 ans de recherche paramédicale, vous avez même passé un diplôme en troubles alimentaires. On trouve quoi alors sur FedMind ?
Oui, alors sur FedMind, en fait, c'est une plateforme d'éducation thérapeutique du patient. Donc c'est vraiment redonner du pouvoir au patient pour qu'il devienne acteur de sa guérison et en tout cas de sa prise en charge. On va retrouver plusieurs outils. On va avoir des choses comme du chatbot pour gérer les crises alimentaires en temps réel, donc qui est disponible sur Facebook, SOS Craquage. On va avoir du Serious Game pour réapprendre à manger. On va avoir tout un programme de thérapie comportementale et cognitive pour venir déconstruire les schémas qui mènent à l'obésité.
En ligne, une thérapie en ligne voilà. Avec des professionnels.
Alors, pas avec des professionnels, on a automatisé. Et l'idée, c'est vraiment que les professionnels, eux, soient le relais sur le terrain. Et c'est vraiment en complément d'un projet de soins qu'on va utiliser l'application.
D'accord, c'est complémentaire.
Voilà, tout à fait.
Sandra, la coach.
Alors, moi, j'ai deux questions. Une première rapide, c'est en fait le vocabulaire. C'est vrai qu'on parle de ronde au début, puis après de grosse, et puis après d'obèse. Je trouve qu'il y a une connotation un peu négative sur le mot d'obèse. Alors, c'est vrai que c'est peut-être une maladie, mais comment on peut mettre ça en positif en disant OK.
Tout à fait. Il y a une connotation très négative et c'est bien dommage parce qu'en fait, c'est le nom de la pathologie. Mmh. Et pour autant, on va pas forcément avoir cette même connotation négative sur d'autres pathologies, sur du diabète, sur un cancer. Et sur l'obésité, tout de suite, c'est négatif. Donc ça montre bien que c'est le regard que porte la société sur l'obèse qui est dramatique. Et le mot n'est pas sale, ça reste une maladie et on ne devrait pas se sentir coupable d'être malade. Et évidemment, il y a des choses qui existent, il y a des solutions qui existent, mais la culpabilité n'a jamais aidé personne.
Voilà, donc déjà, il y a ce premier sujet. Et le deuxième, moi, je crois beaucoup au mix de présentiel, en fait, en face-à-face et de digital.
Tout à fait.
Il n'y a plus qu'à, on fait un mix aussi, présentiel, face-à-face, il n'y a plus qu'à pour les coachings. Vous avez une association qui s'appelle Obèse Anonyme. Est-ce que justement votre appli ou vos services n'arrivent pas en relais d'une première étape qui est quand même de se rencontrer, de se voir?
Tout à fait. Et nous, vraiment, on va avoir ce trio gagnant, c'est-à-dire l'équipe de soins dans un hôpital ou même en ville, la partie application en ligne pour faire le lien chez soi et les groupes de parole pour remettre aussi les patients au cœur du sujet. Donc ce sont des groupes de parole hebdomadaires un petit peu dans plusieurs villes en France. Et vraiment, c'est à partir de là où on a un projet de soins global et complet.
Donc c'est un trio finalement, hein. C'est votre plateforme, le médecin et les groupes de parole.
Tout à fait.
Combien de personnes est-ce que vous avez pu aider, justement ?
Alors, jusqu'à maintenant, avec l'association et l'application, on a aidé près de 800 personnes. C'est qu'un début. Là, on est en train de monter une énorme étude clinique avec l'intégration de 5000 patients. L'idée, c'est de venir démontrer scientifiquement les résultats de notre projet, l'impact sur la qualité de vie, sur la motivation, tous ces indicateurs psychosociaux qui sont complètement oubliés.
En quasiment un an d'existence, vous avez déjà des retours, vous avez vu des personnes aller mieux et guérir de cette maladie.
Alors, guérir, c'est une maladie chronique, oui. Donc on sait qu'on guérit jamais vraiment.
Mais vivre bien avec.
En tout cas, pour accompagner des gens depuis 10 ans, j'ai vu des choses fabuleuses se passer. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de pousser plus loin et de le confronter à la réalité scientifique.
Ça s'appelle FedMind.com. C'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler et la présenter sur Europe 1.
Il est 12h57.
Europe 1.
Restez avec nous, on vous attend avec des innovations bluffantes qui vont arriver dans nos maisons et nos appartements. On en parle à l'occasion de l'ouverture du Mondial du bâtiment. À tout de suite.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Vous le savez, aujourd'hui, on s'intéresse au secteur du bâtiment. On a l'habitude de dire que quand il va, tout va. C'est un secteur clé, c'est vrai, de l'économie. Or, le premier semestre de cette année a connu des plaints et des déliés qui préoccupent les professionnels. Et c'est dans ce contexte qu'ouvre le Mondial du bâtiment. Vous allez voir qu'en matière de construction, de nouveaux matériaux, d'idées aussi, il y a de quoi faire parce que les Français sont innovants. Bonjour Patrick Labib.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'innovation de Technal. Technal, c'est une entreprise créée à Toulouse par deux frères. On est dans les années 60. Et depuis le début, ils travaillent l'aluminium, mais en 2017 est venue l'idée d'une fenêtre connectée. Racontez-moi comment ça se passe.
Alors, en fait, la fenêtre connectée, c'est plutôt cette année qu'elle arrive. C'est l'évolution de la fenêtre qu'on a présentée en 2017, qui était une fenêtre climatique. Donc, l'idée, en fait, était de transformer la fenêtre en pompe à chaleur pour être capable de chauffer ou de refroidir une pièce en utilisant en fait le cadre aluminium de la fenêtre.
Ça veut dire que cette fenêtre, elle peut récupérer le vent, la pluie, toutes ces choses-là ?
Non, ça c'est une autre innovation qu'on présente cette année, qui est une façade énergétique. Et le principe, l'idée en tout cas, c'est d'avoir une façade en aluminium. Qui comporte des languettes en aluminium ou des écailles en aluminium qui peuvent bouger donc en fonction des éléments environnants, le vent, la pluie, voire même le bruit. Et ce mouvement permet également de générer de l'électricité qui peut être récupérée pour être utilisée par la suite.
Donc vous utilisez à chaque fois l'aluminium pour servir de base ?
Tout à fait. Voilà, tout à fait. Hein.
Notre innovation.
Voilà, notre matériau de base, c'est l'aluminium. Voilà, qui a un tas de propriétés intéressantes, de légèreté, mécanique, recyclabilité, etc. etc. Et en innovation, on essaye de l'utiliser pour rajouter des fonctionnalités un petit peu différenciatrices sur nos produits.
Donc, en fait, on vous demande de plus en plus de faire des bâtiments de mieux en mieux isolés, de plus en plus performants aussi en énergie. C'est ça aussi qui vous a motivé à vous servir de l'aluminium pour essayer de changer les choses ?
Oui, alors un de nos drivers principaux, effectivement, c'est la réglementation, hein, en fait, qui s'inscrit dans un certain nombre de réflexions, de directives européennes, etc., et qui vise à faire des bâtiments qui soient le plus efficaces énergétiquement. Mais également, donc maintenant, à travailler sur l'empreinte carbone du bâtiment. Donc, c'est aussi l'énergie grise, hein, c'est-à-dire toute l'énergie qui est liée au cycle de vie du produit. D'où l'intérêt, dès le départ, de pouvoir proposer un aluminium qui ait une empreinte carbone la plus basse possible. Et puis après, c'est aussi les modes d'usage des produits, hein, dans le bâtiment, puisqu'on sait que là aussi, l'usager a un rôle important pour pouvoir participer à l'efficacité énergétique du bâtiment et à la consommation du bâtiment.
Revenons à notre fenêtre initiale, donc premier prototype, deuxième version qui vient de sortir, hein, je crois.
Oui, tout à fait, donc qui est présentée.
Et qui sera commercialisée pour le grand public en 2021.
Alors c'est bien évidemment ce qu'on espère, hein, sachant qu'en innovation on travaille je vais dire, suivant une échelle de maturité technologique. Hein, on commence par une preuve de concept, après on présente un prototype industriel, et puis après une version prête à commercialiser. Donc là, on est à peu près à la moitié du guet. Hein, donc voilà, en 2017, c'était justement une preuve de concept. Là maintenant, on a un petit peu travaillé notre copie, on arrive avec un produit qui est plus fini, une technologie qui est plus optimisée, des performances meilleures. Et effectivement, l'objectif, c'est de l'amener sur le marché.
Donc ça, c'est le premier projet. Deuxième projet, effectivement, on en parlait, cette façade énergétique. Ça, c'est fait à base de fenêtres recyclées ?
Oui. Absolument. Donc cette façade énergétique, en fait, donc elle s'inscrit dans deux grandes tendances. La première, c'est quand même aussi une tendance architecturale, hein, c'est-à-dire de pouvoir proposer d'autres éléments de créativité aux architectes en jouant sur de la dynamique de la façade et non plus d'avoir quelque chose de statique. Et le deuxième grand axe, c'est l'éco-responsabilité. Cette éco-responsabilité, c'est d'une part proposer de l'aluminium très bas carbone, qui est effectivement fait à partir de fenêtres, de portes ou de façades recyclées, donc qui ont déjà été utilisées et qu'on va refondre pour refaire de l'aluminium, et également donc de générer de l'énergie, hein, donc d'être capable de fabriquer de l'énergie à partir du vent, à partir de la pluie, etc. Stocker cette énergie.
À partir du bruit même.
Même à partir du bruit, voilà, on est capable. Hein. Il y avait eu un projet en 2013 d'une tour avec des cils qui pouvaient capter le bruit quand on installait ce bâtiment à côté d'une rocade, etc. et qui était capable de générer de l'énergie. Donc oui, à partir du bruit, le bruit, c'est des vibrations et on est capable de capter ces vibrations et de les transformer en énergie.
Elisabeth, parmi les innovations qu'on a trouvées, je crois que les constructeurs misent beaucoup sur l'électrique.
Oui, parce qu'avec la pression réglementaire qu'on continue de croître, ils se sont dit pourquoi ne pas utiliser pour certains une remorque pour tracter le matériel sans effort. C'est ce que fait Cariole, K plus loin RYOLE. Alors eux, ils se destinent à tout ce qui est livraison, mais ils ciblent aussi le marché du bâtiment parce que sur cette grande carriole, eh bien la charge devient imperceptible. C'est une entreprise qui travaille énormément avec le matériel du bâtiment, notamment avec Bricorama ou Intermarché.
Sandra, qu'est-ce que vous pensez des innovations, parce qu'il y en a plusieurs hein, chez Technal?
Moi, je suis scotchée. Je ne pensais pas que l'aluminium pouvait être aussi innovant. Donc, bravo. Et ma question, c'est plutôt de savoir quel est votre marché, en fait. Soit c'est l'individuel, soit c'est, j'imagine, des entreprises, puisque c'est un matériau ou du collectif. Mais comme le matériau est assez innovant, j'imagine que le prix est peut-être aussi un peu plus élevé que le classique aluminium. Et du coup, est-ce que vous êtes plutôt dans le B2B, luxe, hôtel, beau bâtiment, ou est-ce que c'est pour tout le monde, quoi ?
Alors, c'est, votre question est relativement large. Voilà. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vend pas de produits en direct. On passe par des réseaux d'artisans qui vont mettre en œuvre nos produits pour le particulier.
Donc B2B.
Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse. La deuxième, après, c'est qu'en termes de marché, très franchement, on n'est pas sectaire. Voilà. Mm-hmm. Donc on vise aussi bien. D'ailleurs, par exemple, la marque Technal, hein, 50% de son marché, c'est du particulier. 50%, ça va être plutôt du tertiaire et du projet.
Mais vous dites quand même, pour ce qui concerne la fenêtre, ça reste beaucoup plus cher qu'une installation de chauffage, en tout cas au départ. On s'y retrouve une fois qu'on a investi.
Oui, mais même en termes de, alors comme je l'ai dit, avec toutes les précautions d'usage, on est au milieu du guet, donc voilà, c'est aussi difficile de donner le prix final. Mais aujourd'hui, on est 30% un petit peu plus cher qu'une installation classique, donc voilà, rien de rédhibitoire à ce stade-là.
Mais j'imagine qu'il y a des aides aussi fiscales, justement, le fait d'avoir des fenêtres qui font aussi chauffage ou clim ou transforment le bruit en énergie, c'est quand même fabuleux. On devrait aider peut-être le particulier à financer ça.
Je suis entièrement d'accord avec vous. S'il y a une pétition à signer, il n'y a pas de problème.
Il faut militer là-dessus.
Mais après, effectivement, on peut bénéficier dans des systèmes, pour des systèmes de chauffage, hein, par exemple. Voilà, ça participe quand même à l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâti.
On reste ensemble et on continue à parler bâtiment aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et si demain, votre batterie de vélo pouvait servir au radiateur intelligent, vous allez découvrir comment dans un instant. A tout de suite.
Le Mondial du bâtiment ouvre ses portes aujourd'hui, l'occasion pour la France Bouge de vous parler des toutes dernières innovations pour nos appartements et nos maisons. Vous faites des travaux, vous avez besoin de conseils, pourquoi pas, vous avez des questions, écrivez-nous sur Twitter, @Europe 1, ou alors vous nous appelez au 3921 Raphaël.
Oui, et vous avez la possibilité de venir poser toutes vos questions, hein, y compris à nos invités. Vous savez qu'il existe de plus en plus de vélos électriques.
Bah oui.
Est-ce que vous vous êtes déjà intéressé aux batteries des vélos électriques ?
Du tout.
Bon, eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous, Raphaël Meillard. Bonjour.
Bonjour, Raphaël Duchemin.
Vous dirigez Lancé Energy Storage. Vous l'avez créé même, entreprise qui existe depuis 2016. Il faut dire que vous avez travaillé pendant des années sur le solaire photovoltaïque. Vous avez aussi, après votre thèse, décidé de vous intéresser à la question du stockage d'énergie.
Exactement.
Et en réfléchissant justement à la manière de stocker cette énergie, à l'endroit où stocker cette énergie, vous avez pensé à un objet qu'on a tous chez nous, le radiateur.
Exactement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le bâtiment, c'est une filière extrêmement importante dans l'économie. C'est aussi une filière qui est très importante sur le plan des émissions de CO2, sur le plan de la consommation d'énergie. On parle beaucoup de la mobilité électrique et je trouve qu'on pourrait parler un peu plus de la rénovation du bâtiment en France. Et c'est vrai qu'au travers de ces différentes années de recherche, que ce soit en thèse ou chez Lancé, c'est forgé un rêve, une conviction qui est que demain, chaque bâtiment de ce pays pourrait au moins produire une partie de son énergie de sources renouvelables. Et de fait, le solaire est une énergie extraordinaire, en particulier le solaire photovoltaïque. Et donc, nous travaillons, nous ne sommes pas les seuls, hein, y a toute une filière derrière, mais nous travaillons chez Lancé à essayer de démocratiser le plus possible ce qu'on appelle l'autoconsommation d'énergie solaire photovoltaïque. Le principe des panneaux solaires sur le toit ou à proximité du bâtiment. Une production évidemment qui aura lieu que en journée, hein, ça c'est le gros défaut du solaire, mais qu'on peut corriger avec une capacité de stockage d'électricité qui va en journée stocker cette électricité gratuite et totalement décarbonée et évidemment le réinjecter le soir lorsque nous avons des besoins d'énergie très forts, en particulier pour le chauffage. Et j'en termine par ce petit chiffre, puisque le chauffage dans un bâtiment moyen en France, c'est les 2/3 de la consommation d'énergie, donc c'est très 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 loin devant tout autre usage de l'énergie, et c'est évidemment cet usage-là auquel il faut apporter des solutions.
Mais alors, comment vous vient l'idée de mettre à l'intérieur des batteries connectées ? Pour l'instant, ce sont des batteries neuves, je crois, mais voilà. L'idée, c'est, et j'en viens à mes fameux vélos électriques, de recycler ces batteries.
Tout à fait. Alors, Lancé a développé le premier radiateur électrique intelligent qui embarque des batteries de stockage d'électricité. Et l'idée est venue d'un concept tout simple, en fait, c'est qu'une batterie, quand on l'utilise, par exemple une batterie de smartphone, ça chauffe. Et ça, on s'en rend compte quand on a un appel un petit peu long. Le smartphone est chaud. En réalité, c'est la batterie qui chauffe. Et donc, on comprend qu'il y a une source d'énergie potentielle qu'on peut valoriser sous forme de chaleur. Donc
on récupère cette chaleur.
Exactement. Et en associant le radiateur électrique Lancé avec sa batterie Lancé, on peut valoriser ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur perdue traditionnellement par cette fonction stockage d'électricité, la batterie. Et l'idée initiale s'est déroulée finalement en découvrant d'autres intérêts à coordonner, à combiner un radiateur électrique performant avec cette batterie, ce qui permet notamment de baisser la facture de chauffage très très fortement.
Oui, parce que mon radiateur intelligent, qu'est-ce qu'il fait ? Il emmagasine toutes mes données de consommation, il sait à quel moment je vais avoir le plus besoin
Exactement.
D'électricité, donc il régule.
Oui, il ne faut pas oublier tout un volet qui permet d'économiser déjà beaucoup d'énergie, qui est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire avoir une gestion plus intelligente, par exemple du chauffage, mais ça peut être aussi de l'éclairage, etc., etc. Le principe, c'est que on peut, avec un radiateur Lancé, avoir un autopilote qui va détecter lorsqu'on est absent de telle ou telle pièce, quand on est absent du logement, et couper le chauffage automatiquement à ce moment-là. On va anticiper le retour avec effectivement des algorithmes d'intelligence artificielle et reconstituer le niveau de confort en anticipant le retour de l'utilisatrice ou de l'utilisateur. Sur ce type de principe, on peut économiser de l'ordre de 35% d'économie d'énergie par rapport à un système classique. À ça, évidemment, il faudrait rajouter des économies d'énergie d'une meilleure isolation. Mmh. On ne l'oublie évidemment pas. Et à ça, enfin, la batterie va permettre de faire des économies tarifaires. On va pouvoir stocker l'électricité en heure creuse. Ça, c'est le modèle traditionnel. Et vraiment, de plus en plus, ce sur quoi nous voulons insister, ce sont les électricités renouvelables, par exemple photovoltaïques, qui sont gratuites, décarbonées et qui, en autoconsommation, peuvent être très intéressantes sur la facture.
Elisabeth, les métiers du bâtiment, dans leur ensemble, sont en train de se transformer, on peut le dire ?
Bah oui, ça se transforme complètement. Hein. C'est des métiers qui font leur révolution numérique, des métiers qui se sont professionnalisés aussi. Hein. Le niveau général s'est élevé. Par exemple, entre 2005 et 2015, les effectifs ont diminué d'environ 14%, mais en même temps, le nombre des encadrants, lui, a progressé de 4%. Par exemple, le métier des couvreurs aujourd'hui, il ne suffit plus de savoir poser des tuiles hein, sur un toit. Désormais, les couvreurs se transforment en pilotes de drones pour pouvoir porter un diagnostic sur un toit sans avoir à y monter. Vous avez les maîtreurs aussi qui ont su faire évoluer leur métier. Ils se sont transformés grâce au scanner notamment, qui assure de ne plus jamais passer à côté d'un mur qui pourrait être un petit peu penché ou tordu. Vous avez aussi les électriciens qui font davantage de programmation que des poses électriques proprement dites. Les compétences de base sont donc nécessaires, mais elles ne suffisent plus. Il faut se former régulièrement.
Sandra ?
Alors, moi, je ne suis pas ingénieure d'origine, mais ce que j'arrive peu à comprendre, il y a déjà beaucoup de choses qui existent en termes de radiateurs intelligents. Hein, la régulation, les heures, les consommations, etc. Tout ça est déjà dans les usages. Maintenant, vous, ce que je comprends, c'est qu'il y a un lien entre le photovoltaïque, la batterie et le radiateur.
C'est
ou
ça.
Alors j'ai mal compris, parce que c'est ça l'innovation, c'est de récupérer la chaleur du soleil, hein, le voltaïque, pour le mettre dans une batterie et le lier au radiateur.
Exactement. On a une solution tout en un qui va s'occuper à la fois de générer un confort optimal bas carbone, le chauffage lancé, et la batterie lancée qui permet de stocker une électricité disponible sur place lorsqu'elle est peu chère, voire gratuite, et en particulier gratuite du fait d'une production locale. L'idée est bien d'avoir une autoconsommation, donc une production et une consommation sur place. Donc on n'est plus simplement consommateur d'électricité,
on
va être aussi
acteur,
producteur. La batterie, en fait, est uniquement, simplement, un module qui permet de garder sur place cette électricité, puisque aujourd'hui, sans rentrer trop dans le détail, mais les évolutions des tarifs de rachat photovoltaïque, etc., font qu'il est plus intéressant financièrement d'autoconsommer que de réinjecter sur le réseau. Et c'est une logique locale où on va redonner de la valeur sur place aux occupants du bâtiment.
Il est passionnant aussi. On reste ensemble et on continue à parler de bâtiments aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et si la pose du carrelage devenait un jeu d'enfant ou presque, c'est l'idée de Robotil et de sa Carlita. A tout de suite.
Dans la France Bouge cet après-midi, on parle des innovations dans le bâtiment. Vous avez des questions, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors vous nous appelez au 3921. On a découvert une façade qui transforme le vent, la pluie et même le bruit en énergie, des radiateurs connectés. Quelle est la prochaine innovation, Raphaël ?
Eh bien, quand on fait construire une maison, Céline, il faut choisir tout un tas de matériaux et le choix du carrelage est souvent déterminant. La pose aussi, c'est tout un art. Bonjour Serge Semeté.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez Robotil, une entreprise qui développe une machine d'assistance mécanique qui permet de poser facilement le carrelage. Elle s'appelle Carlita.
Tout à fait.
Vous l'avez même déposé, ce nom.
Oui.
Alors, tout commence, je crois, Serge, dans votre tête en 2012, quand vous-même, pour votre maison, vous commencez à poser du carrelage.
Voilà. En fait, avec ma femme, on a choisi un carrelage de grand format, un 60 par 60. Et donc, j'étais très content que ma femme se dirige sur ce modèle, sur ce format, parce que je me suis dit, comme c'est plus grand, ça doit se poser plus vite et plus facilement. Et au contraire, en fait, la pose est plus délicate, beaucoup plus délicate en termes d'affleurement. Et puis, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus lourd.
Donc à ce moment-là, vous vous dites, bon, c'est compliqué, il faudrait qu'on puisse nous aider.
Voilà, en fait, je, à partir de ce moment-là, je mets deux fois plus de temps que ce que j'avais estimé. Et je me dis, il doit y avoir une mécanisation, une machine pour arriver à poser ces carreaux beaucoup plus facilement. Et non, elle n'existait pas. Donc, il a fallu que je l'invente.
Alors, comment vous faites pour inventer cette machine? Combien de temps vous mettez et qu'est-ce que vous prenez en compte?
Donc, en fait, dans un premier temps, moi, j'ai voulu développer un bras robotisé collaboratif. J'ai une formation d'ingénieur et j'étais parti sur du compliqué et une technologie assez élevée. Et puis, il s'est avéré que le bras robotisé n'a pas la capacité vraiment à porter des carreaux de très grand format, puisque maintenant, le carrelage va jusqu'à 1 mètre carré et donc 25 kilos de charge unitaire. Il y a même des carreaux encore plus grands, de 3 mètres par 1 m50. Et donc le bras robotisé n'était pas intéressant. Donc on est reparti sur une machine beaucoup plus simple, mécanique, avec un contrepoids, et qui parle plus, je pense, aux carreleurs, parce que c'est une technologie assez basique. On utilise toutefois quand même la ventouse qui ventouse par le vide le carreau. Donc là, ça, c'est issu de la robotique. Et on est capable de soulever des carreaux de grand format, mais également des petits formats en les prenant 4 par 4, puisqu'on a 4 ventouses.
Qu'est-ce qu'elle fait, la machine ? Elle prend le carreau dans le tas, on va dire, et elle le pose au bon endroit, elle le met pile à l'endroit où il doit aller ?
Alors, en fait, la machine, on peut, elle
Qu'est-ce
se charge.
Qu'elle évite comme mouvement finalement voilà, au
voilà.
carreleur.
Voilà, elle se charge elle-même, c'est-à-dire qu'elle peut, à partir d'une palette de carreaux, être chargée par elle-même sans aucun effort. Et elle est quand même pilotée entièrement par le carreleur. Il n'y a pas de mécanisation, il n'y a pas de motorisation sur le reste de la machine. Donc, le carreleur garde son geste et va pouvoir poser précisément son carreau, l'ajuster comme il le fait à la main.
C'est un incubateur qui vous a accompagné, parce qu'au départ, vous étiez promoteur immobilier dans l'Essonne. Donc, rien à voir ou pas grand-chose à voir. Vous connaissiez le monde du bâtiment, forcément. C'est Incuballiance. Et votre société, vous la montez en 2018. C'est assez récent.
Voilà, en fait, Incuballiance m'a apporté les premiers fonds pour développer la maquette. Et puis, à partir de ce moment-là, on a déposé, avec l'aide d'Incuballiance, un dossier BPI, Banque Publique d'Investissement, pour avoir une subvention pour développer le prototype. Et en fait, pour que BPI verse des fonds, il faut que la société soit constituée. Donc c'est pour ça que je l'ai créé l'année dernière. Et là, j'arrive avec un prototype qui me permet de développer l'industrialisation.
Que dit notre coach, Sandra ?
Écoutez-moi, tout ce qui simplifie les gestes, la posture, le poids, etc., je trouve ça intéressant. Vous en avez déjà vendu des machines aux industriels ?
Alors non, je n'ai pas encore vendu de machine. Là, je viens de finir le prototype et ma présence à Batimat, c'est pour trouver une clientèle.
D'accord. Et du coup, vous avez déjà un petit peu à Batimat eu des contacts ou...
Là, depuis ce matin, oui, il y a déjà des gens qui sont passés. J'ai un Japonais qui a trouvé ça intéressant.
Directement voilà. À l'international.
Ouais. Voilà.
Le développement. Elisabeth, le bâtiment, on n'a pas dépeint le marché du bâtiment. Ça représente quoi aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, ce sont 1 104 000 salariés, 373 000 artisans avec un chiffre d'affaires de plus de 140 millions d'euros, hein, d'après la Fédération française du bâtiment. Milliards d'euros. Alors, c'est un domaine qui a été en crise pendant 10 ans et qui a vécu une reprise très brutale avec une relance de la construction à partir de 2018. Mais justement, à cause de cette crise, eh bien, ça a amputé le bâtiment, le secteur, de 150 000 effectifs en 10 ans avec des départs à la retraite, avec des entreprises qui ont réduit leur masse salariale. Et c'est un secteur qui n'a pas su anticiper ce redémarrage de 2018. Donc voilà où nous en sommes. Donc ça redémarre gentiment et il y a des tas d'innovations et tant mieux.
Et c'est un secteur qui embauche ?
Oui, et c'est particulièrement vrai chez les maçons. 6 500 maçons à recruter d'ici 5 ans. Chez les couvreurs, 1 300 couvreurs et des encadrants de chantier. Hein, je vous en parlais tout à l'heure. Il y en a de plus en plus. Là, on en recruterait autour de 1 500 pour cette année.
On continue à parler bâtiment aujourd'hui sur Europe 1 et on vous attend bien sûr.
Il est 13h37.
Europe 1.
3921 et Twitter, hashtag Europe 1, venez poser vos questions à nos invités, venez participer tout simplement. Vous décrochez votre téléphone et vous serez en direct avec nous dans La France qui bouge. À tout de suite.
Dans La France bouge cet après-midi, on parle des innovations dans le bâtiment et on en parle, Raphaël Duchemin, avec vos invités.
Avec nos invités qui sont des spécialistes de l'innovation, chacun finalement dans sa partie. Patrick Labib, directeur du département innovation chez Technal. Raphaël Meyer, cofondateur de Lancé Energy Storage. Et Serge Semeté, fondateur et dirigeant de Robotil, qui a développé Carlita. À nos côtés, Sandra Legrand, notre coach aujourd'hui, cofondatrice de Yapuka, qui coach les jeunes pour leurs entretiens. Et évidemment, Elisabeth Assayag qui m'accompagne tout au long de cette émission. On a une première question sur Twitter.
Oui, de Marc, hashtag Europe 1, il nous écrit « Les métiers du bâtiment sont donc dans l'obligation de faire monter en compétences leurs employés. Savez-vous si l'environnement scolaire prépare également à cette évolution technologique ?»
Ah, qui a la réponse pour Marc, Patrick, Raphaël ? Allez-y, tous les deux, si vous voulez.
Donc, la formation,
c'est important.
Oui, la formation est très importante et effectivement, on essaye en tout cas d'avoir des relations entreprise-école relativement poussées. On se déplace pour faire des formations, on fait venir les jeunes pour découvrir le métier, pour découvrir le produit, et c'est effectivement fondamental parce qu'on se rend compte que c'est à ce moment-là que c'est important de se faire connaître en tout cas dès le départ pour pouvoir ensuite intéresser les jeunes à nos métiers.
Raphaël.
Oui, tout à fait dans la même logique. On a un certain nombre de projets d'équipements, de panneaux solaires, notamment photovoltaïques, sur les bâtiments. Le but étant d'avoir des objets d'études pour un certain nombre de cours, pour comprendre un petit peu les phénomènes de base. Et c'est au départ, évidemment, de chaque processus de formation. On peut également parler, je crois, de l'alternance qui commence à ravoir le vent en poupe, et on peut vraiment s'en féliciter parce que ce sont des métiers très nobles. Et je pense vraiment que notamment la transition énergétique passera par ces filières. Donc c'est tous nos encouragements aux jeunes étudiants.
Serge, Nicolas, notre réalisateur, a une question pour vous, parce qu'il est intéressé manifestement par la machine Carlita. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça qu'avec le carrelage? Est-ce qu'on pourrait l'envisager pour d'autres matériaux, des parpaings, des agglos?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, mon associé qui a développé la machine avec moi a une machine à poser les parpaings dans ses cartons. Donc, on peut se diversifier sur d'autres sujets de charge, effectivement.
Donc, c'est un projet, en tout cas.
Ça va suivre. Et moi, je voudrais revenir juste sur la formation.
Sur la formation.
Parce que j'ai le lycée professionnel de Massy en formation carreleur mosaïste qui m'a aidé à mettre au point la machine avec des élèves qui étaient vraiment intéressés par son utilisation et notamment des jeunes filles de 14-15 ans qui ne pouvaient pas déplacer des carreaux de grande dimension et qui ont pu enfin poser
donc
de ces formats.
Donc ça peut ouvrir des perspectives aussi
de féminisation du métier,
ce qui est une bonne chose.
Justement, on a une autre question concernant le carrelage.
Guillaume qui nous demandait est-ce que le prototype fonctionne pour de la pose en faïence verticale. Je pense que du coup, vous avez...
Non, effectivement, non. Pour l'instant, notre machine est uniquement dédiée au sol, à la pose au sol.
Ouais, pour l'instant.
Pour l'instant. Nous n'excluons aucune compétence supplémentaire.
Sur la formation, parce que ça me paraît très important, il faut vraiment valoriser, alors, des campagnes de communication nationale, mais aussi vous, dans vos secteurs, le côté innovation dans le bâtiment et dans tous ces métiers, parce que c'est ça qui attire aussi les jeunes. Ils parlent de tech, ils parlent d'innovation, enfin voilà, donc il faut vraiment...
Et d'environnement,
valoriser.
C'est
d'environnement,
important,
oui,
c'est
tout ce qui
une
est RSE,
des clés pour les nouvelles générations.
Absolument, ça fait sens, beaucoup de sens. Innovation, environnement, RSE, équitable...
Absolument, on s'aperçoit que le bâtiment est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui, et que de contributeur net au réchauffement climatique, il va devenir de plus en plus un élément de stabilisation. Il y a tout l'enjeu du bien vieillir chez soi, il y a l'enjeu du maintien à domicile, il y a l'enjeu évidemment du développement des énergies renouvelables. Tout ça, ce sont des nouvelles technologies qui vont être déployées ici, si possible fabriquées en France, et avec vraiment des très très belles perspectives.
Oui, parce qu'on ne l'a pas dit suffisamment peut-être, mais tout ce que vous faites aujourd'hui est fabriqué en France, c'est du Made in France.
Absolument.
Oui. 100%.
Eh oui, c'est bien la preuve qu'on peut le faire. Elisabeth, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le matériel de plomberie restant. Je crois que vous avez trouvé une coopérative.
Oui, les éco-coopérateurs qui existent depuis 2018, c'est écrit à Metz. 250 salariés qui se sont réunis dans une société coopérative et participative. Il s'agit du groupe Gossel qui est installé sur le plateau de Frescati. Eux, ils sont spécialisés dans la revalorisation des pièces de plomberie et de chauffage récupérés sur les chantiers. Il y a énormément de stocks qui ne servent plus à rien. Eh bien, il existe cette coopérative, les éco-coopérateurs qui s'en occupent.
Je vois que Raphaël Meyer prend des notes, du coup. C'est bien, vous voyez, on donne des idées ici. Et je vous promets qu'on fera une émission consacrée justement à tous ces matériaux qu'il faut recycler dans le bâtiment, la seconde vie des déchets du bâtiment. C'est quelque chose de capital parce qu'effectivement, vous l'avez dit, en matière d'émissions de CO2, c'est un vrai problème.
L'économie circulaire
est au cœur du débat.
Tout à fait.
Merci à tous les trois d'être venus nous parler d'innovation Made in France sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1.
On reste ensemble et c'est un héritage unique qu'on va découvrir, celui des vinaigriers, la maison Martin Pourré à Orléans. Et dans quelques minutes, l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est la maison Martin Pourré que vous dirigez, Paul-Olivier Claude-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est assez récent, je crois que ça fait seulement 2 mois que vous êtes propriétaire de cette maison qui était toujours dans la même famille depuis 6 générations. Mais vous avez réussi à convaincre Jean-François Martin de vous vendre. Comment est-ce que vous avez fait ?
Alors, il a fallu déployer des montagnes d'intelligence et de séduction pour y arriver. Donc effectivement, avec mon associé David Matron, on a racheté cette très belle entreprise il y a 2 mois. Mais les négociations ont duré quasiment 1 an pour qu'effectivement on puisse convaincre Jean-François de nous laisser son bébé après quasiment 7 générations.
Oui, parce que c'est un savoir-faire assez rare, hein, qui date en fait du Moyen-Âge. La maison Martin Pourré, son histoire, c'est celle des vinaigriers et d'un savoir-faire qui remonte à 1797.
Alors, pour nous, 1797, mais cette
Sinon,
tradition
bien,
est
bien
encore
avant.
Plus ancienne. Effectivement, elle date du Moyen-Âge. Puisque l'histoire des vinaigres d'Orléans est liée à la Loire, puisque à l'époque, les vins qui remontaient vers Paris s'arrêtaient dans le dernier port fluvial qui était Orléans. Les vins, allez, qu'on disait un petit peu piqués, étaient récupérés et transformés en vinaigre. Donc il y a eu jusqu'à 400 vinaigriers et moutardiers à Orléans il y a un siècle, et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule maison. C'est la maison Martin Pourré.
La maison Martin Pourré, où on transforme toujours, comme avant, j'ai envie de dire, dans des fûts de chêne, des vieux fûts de chêne, 240 litres, hein, c'est ça, je crois.
Exactement. Je vois que vous avez très très bien étudié la chose. Effectivement, ça reste la même méthode depuis le Moyen Âge. Donc, on va faire fermenter le vin, que ce soit du vin rouge ou du vin blanc, dans des fûts. Pendant environ 3 semaines, fermentation naturelle, contrairement à une fermentation industrielle qui se passe en quelques heures. Et puis, au-delà de cette fermentation, ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va faire vieillir ce vin dans ce qu'on appelle des foudres. Et alors, à minima 1 an, et ça va jusqu'à 20 ans. Voilà.
Mais pourquoi est-ce que vous retirez petit à petit une partie 50 litres par 50 litres pour remplacer par du vin ?
Alors, pour que justement, on puisse bénéficier de cette fermentation qui va se faire naturellement, c'est-à-dire qu'on va garder dans les fûts une partie du vinaigre qui a déjà été produit et puis rajouter un vin nouveau qui lui-même, au bout de 3 semaines, va devenir ce très bon vinaigre.
Vous connaissiez, Sandra, l'histoire de Martin Pourré ?
Écoutez, non. Je connais la moutarde de Dijon, mais le vinaigre d'Orléans, ce n'est pas quelque chose qui est aussi connu. Donc, je trouve que c'est bien de porter en fait, ce savoir-faire. Et je trouve que quand on vous écoute, on a l'impression que vous décrivez ça aussi bien que la fabrication du vin ou du champagne. Donc c'est chouette. Et quand je vais sur votre site, je trouve que c'est intéressant parce que le vinaigre, en fait, on peut en garder une bouteille pendant 12 mois dans un placard si on ne s'en sert que pour la sauce salade, la vinaigre. Et je trouve que c'est bien de faire découvrir des recettes qui utilisent en fait vos produits parce que enfin dans les plats, dans les entrées, dans les desserts, enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Donc
oui, vous avez raison, il y a une utilisation qui est quasi infinie avec les vinaigres. Et j'aime l'image que vous avez pris par rapport à des vins ou à l'univers du cognac. On est exactement dans ce type d'univers. Je vous invite à venir nous voir à Orléans.
On viendra.
Voir la vinaigrerie, vous verrez des centaines de fûts où on va faire vieillir nos vinaigres. J'en profite là pour annoncer qu'on va sortir l'année prochaine un vinaigre de 20 ans d'âge. On était avec mon associé la semaine dernière au Japon pour justement leur présenter ce produit et rencontrer quelques chefs japonais.
Vous êtes présent quand même dans une quinzaine de pays.
Exactement, ouais, absolument, on a cette chance. On a cette chance.
Maison discrète, mais efficace. Pourquoi est-ce que vous avez eu, vous, envie de vous lancer dans cette aventure-là ? Il y avait, je crois, une shortlist d'une trentaine d'entreprises que vous aviez référencées avec David. Et puis votre choix s'est porté sur Martin Pourré.
Oui, parce que, alors, David, comme moi, on est des fous hein, de gastronomie, de cuisine, de bons ingrédients. Alors, vous avez raison, rien ne nous destinait à ça. Hein. Moi, j'ai travaillé dans la bière et dans le café, donc à la limite, allez, peut-être. David, lui, était directeur financier dans une usine qui fait, enfin, une usine, une société qui fait des sous-marins. Donc, rien à voir avec le vinaigre. Mais comme on aime les maisons qui ont des traditions, qui ont un savoir-faire unique, qui ont une belle histoire, et puis surtout la capacité d'être exportée facilement, on s'est dit, voilà, c'est celle-là, on l'aime.
C'est la maison Martin Pourret qui fait des vinaigres, qui fait aussi des cornichons et de la moutarde. C'est plus récent, la moutarde, hein, c'est dans les années 2000, ça fait partie des nouveautés.
Oui, exactement, ce sont des nouveautés, même si depuis toujours à Orléans on fait de la moutarde. Là, moi, j'aime particulièrement cette moutarde, j'en suis particulièrement fier parce que nos moutardes sont faites avec des graines de moutarde françaises, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, puisque je reprends votre propos sur Dijon. Alors, j'aime pas dire des choses qui sont pas sympas, mais voilà, il faut savoir qu'une grosse partie de la production de moutarde en France est faite à base de graines qui viennent du Canada. Mmh. Nous, on a relancé une filière agricole dans le Val-de-Loire et nos moutardes sont 100% françaises.
C'est la maison Martin Pourret, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous la présenter. Merci à Sandra Legrand qui était notre coach. Elisabeth Céline, on se dit à demain.
À demain, Raphaël. C'était Raphaël Duchemin sur Europe 1 et dans un instant, vous retrouvez Christophe Ondelatte.